On a évoqué le plan de lutte contre la pauvreté. On peut évoquer aussi, puisque Frédéric évoquait une bourrasque politique, il y a eu l'affaire Benalla, je crois qu'on en a parlé dans les médias. Indépendamment de l'affaire Benalla, du départ de Nicolas Hulot, il y a peut-être aussi une autre cause à l'impopularité d'Emmanuel Macron. C'est ce titre du Monde d'hier, « Macron handicapé par la faiblesse de l'économie ». Et là, selon le journal Le Monde, les faiblesses de l'économie française apparaissent. Il y a de plus en plus de signes que la machine économique pourrait ne pas créer autant d'emplois qu'elle le devrait, que les Français le voudraient. Votre point de vue justement sur cette situation économique et peut-être aussi les déceptions ?
Oui, bien sûr, c'est tout à fait évident. L'économie française au premier semestre a mal fonctionné. On était au semestre précédent, le deuxième semestre de l'année 2017, sur un rythme de croissance moyen de 1,4%, c'est-à-dire qu'on a fait deux fois 0,7, peu importe, et au premier semestre de cette année, on a fait deux fois 0,2%, c'est-à-dire 0,4 si on fait la somme sur le semestre. C'est des rythmes très inférieur à ceux que l'année 2017 nous avait fait connaître. Sur le terrain de l'emploi, c'est pareil. On était sur des rythmes de création d'emplois supérieurs à 300 000 emplois créés en moyenne tout au long de l'année 2017. Selon l'INSEE, sur 2018, c'est simple, on va faire deux fois moins. On est sur des rythmes de 150 000 emplois créés, ce qui est un peu au touche-à-touche avec la croissance spontanée de la population active. Donc, en fait, le chômage va baisser beaucoup moins. Alors, est-ce que c'est dû spécifiquement aux erreurs de management du gouvernement en place? Oui, en partie. Toute la controverse sur la CSG, qui n'est reversée que progressivement pour faire des économies budgétaires, en fait partie. Il y avait une controverse entre le gouvernement et l'INSEE sur la question de savoir si les taxes sur le tabac, sur le diesel, allaient amputer le pouvoir d'achat ou si ça allait changer les comportements. Évidemment, c'est l'INSEE qui avait raison. Avant de changer les comportements, ça ampute le pouvoir d'achat. Au premier trimestre de cette année, le revenu en pouvoir d'achat des ménages a baissé, mais il y a aussi un gros facteur là qui, pour le coup, s'applique à l'ensemble de la zone euro, qui, elle aussi, d'ailleurs, décroche un peu comme la France, en fait, c'est la hausse du prix des matières premières. On a une inflation qui a beaucoup monté, elle s'élève à 2,3% sur l'année. Si on enlève les matières premières, elle ne serait que de 1%. La différence entre les deux, c'est au fond l'amputation de pouvoir d'achat que subissent les Français à cause de la hausse du prix des matières premières. C'est un facteur exogène, mais qui fait que on fait les malins quand tout va bien. En 2017, voilà, la confiance renaît, alors qu'évidemment personne ne pouvait croire que c'était des mesures qui n'étaient même pas encore prises, qui étaient derrière la croissance et la hausse de l'emploi. Eh bien, on en subit les conséquences, même quand c'est pas vraiment de votre faute. Il y a une part de responsabilité, mais c'est pas l'essentiel. Eh bien, on vous le reproche parce que c'est comme ça. Les hommes politiques s'approprient les mérites d'une croissance quand elle revient et subissent les conséquences quand elle disparaît, même si dans les deux cas, en réalité, bien souvent, ça ne dépend pas d'eux.
Est-il juste aujourd'hui de reprocher ces chiffres médiocres, selon vous, Daniel Cohen, à Emmanuel Macron, ou de toute façon il est encore trop tôt pour faire un bilan de sa politique économique?
Encore une fois, il fallait moins fanfaronner quand la croissance est revenue, parce que là, du coup, on s'expose.
Ça fait partie des choses.
Voilà, donc symétriquement, quand ça va pas bien, on dit que c'est votre faute. En fait, encore une fois, ni dans un cas ni dans l'autre, ça n'était à son crédit et aujourd'hui à son bénéfice. Mais en effet, il y a quelque chose qui est en train de se jouer, peut-être, de se cristalliser. C'est qu'Emmanuel Macron a pris un certain nombre de mesures qui étaient en fait assez conflictuelles du point de vue de la société. On prend aux retraités, on donne aux actifs, on donne aux détenteurs de capital et indirectement, on prend aux fonctionnaires puisqu'il faut faire des économies en contrepartie de tout ça. Ça passe quand la croissance est forte parce qu'on peut dire, voilà, je fais un jeu de bonneteau, mais au bout du compte, c'est bon pour la croissance. Plus la croissance ralentit, plus les mesures que l'on prend apparaissent comme un jeu à somme nulle. Je prends dans la poche des uns pour donner aux autres. Et c'est ça qui n'est pas bien pour Macron, c'est-à-dire ce sentiment qu'au fond, il est dans une politique de redistribution un peu classique, je prends dans la poche des uns pour donner aux autres, alors qu'évidemment son ambition, c'était de mettre tout ça au service d'une France renouvelée. Comme la croissance n'est pas là, alors tout d'un coup, un peu la marée qui se retire, on voit qu'il était tout nu quand la mer se retire, disait Warren Buffett. Il y a un peu quelque chose de cette nature, ça aiguise les traits de la politique macronienne, parce que la croissance étant faible, on voit qui profite et qui ne profite pas, et ça n'est pas englouti par une vague de richesse qui pourrait faire penser que finalement, tout ça était pour le bien public.
Avant de prendre un peu de champ et d'évoquer l'évolution de l'économie mondiale et sa capacité ou non à créer des emplois ou à en détruire, puisque aujourd'hui, selon vous, la question, c'est la destruction d'emplois. Daniel Cohen, il y a quand même un président qui fanfaronne, c'est Donald Trump. Il se targue des très bons résultats de l'économie américaine. Il a raison ou il a tort?
Il a évidemment tort. C'est-à-dire que Trump a réussi à relancer la machine économique américaine en acceptant des déficits considérables de 5 points de PIB. Alors même qu'on est en haut de cycle américain, le déficit est une arme évidemment très utile, mais à manier avec précaution quand l'économie va mal. Or lui, alors que l'économie était déjà presque au plein emploi, enfin le taux de chômage américain est inférieur à 4%, bon, il n'y avait vraiment aucun besoin à ce moment-là du cycle de soutenir l'économie américaine, il brûle ses cartouches. Quand le ralentissement qui va se produire fatalement de l'économie américaine va se manifester, le taux de déficit va passer par définition de 5 à 6, 7. Et là, tout d'un coup, il devra faire, comme tous les gouvernements européens depuis 20 ans, une politique non pas contracyclique, c'est-à-dire qui lutte contre le cycle, mais pro-cyclique, c'est-à-dire qui va accompagner le cycle. Quand ça va bien, ça va encore mieux parce qu'on remet de l'argent, et quand ça va mal, il va falloir rétro-pédaler, sauf à prendre le risque d'un crack, parce que peut-être qu'il voudra pas réduire les déficits, mais à ce moment-là, il peut y avoir, même pour les États-Unis, une panique sur la dette. Bref. Il n'y a aucun mérite à accorder à Trump de cette reprise. Tous les économistes, je crois, sont d'accord sur le fait que c'est l'effet mécanique de la hausse des déficits. Encore une fois, pas au bon moment du point de vue, on va dire, de la tendance moyenne de l'économie américaine.
Évoquons maintenant, Daniel Cohen, l'évolution cette fois-ci du système productif mondial, de la manière dont l'économie aujourd'hui prend un tournant avec la nouvelle économie, avec le web, pour le dire en un mot, et les conséquences que cela pourrait avoir sur nos emplois. Dans votre livre, il faut dire que les temps ont changé. Vous vous montrez plutôt pessimiste sur la capacité d'Internet à tenir ses promesses. Il y avait une promesse d'émancipation, il y avait une promesse d'augmentation du pouvoir d'achat. Et finalement, on arrive à un résultat où on se demande, par un certain nombre de mécanismes, si Internet ne va pas contribuer à détruire nos emplois. Qu'en est-il, selon vous?
Alors, moi, je pense d'abord qu'il faut... C'est pas nouveau, Internet. C'est le milieu des années 90. La révolution informatique elle-même, pour le dire simplement, c'est la fin des années 70, le début des années 80, avec les ordinateurs de bureau. Donc, on a quand même beaucoup de recul maintenant. Et je crois qu'il faut justement faire un peu une distinction entre, peut-être, deux phases. La première phase qu'on a connu depuis maintenant 40 ans, c'est une phase dans laquelle, grâce à l'instrument informatique, on a accompagné une révolution financière qui se produit dans les années 80 et qui a tout simplement visé à déstructurer l'ancien monde industriel. L'ancien monde industriel, c'était des grandes sociétés pyramidales dans lesquelles le patron, l'ingénieur, le cadre, l'ouvrier à la fin étaient intégrés dans une grande chaîne de valeur au fond solidaire, dur, hiérarchique, mais solidaire. Le salaire du patron et le salaire de l'ouvrier étaient indexés l'un à l'autre. Il y a très peu de creusement des inégalités au cours de cette période. Et au fond, on connaît un mode de croissance qu'on va appeler inclusif. À partir des années 80, et ça commence avant la révolution informatique, mais avec la révolution financière, on coupe en tranches, on externalise tout. Tout ce qui peut être fait par autrui, on le fait faire par autrui. C'est le rêve d'une société sans usine et d'usine sans travailleurs. Et au fond, la mauvaise réputation de la révolution informatique, elle tient à ça. Ça a été un instrument de destruction des solidarités implicites qui pouvaient exister dans l'ancien monde industriel. Et je pense que cette phase-là, elle a atteint un peu son point stationnaire. C'est difficile d'aller plus loin dans l'externalisation qu'on a été aujourd'hui. Et donc, on est dans un monde de dissociation. Les travailleurs les plus qualifiés restent entre eux. Les travailleurs les moins qualifiés dans des entreprises de sous-traitance restent entre eux aussi. Il y a une statistique que je trouve tout à fait extraordinaire. Alors que les inégalités ont explosé aux États-Unis, il n'y a plus besoin de revenir sur les chiffres qui sont bien connus. En fait, les inégalités au sein des entreprises n'ont pas augmenté. Parce que entre les entreprises, on n'a plus que des gens très proches entre eux. Et donc, on n'a pas d'augmentation. L'augmentation des inégalités, évidemment, c'est très trompeur, parce que là où il y a inégalité de destin, on externalise la situation, et ça fait le lien avec la grande pauvreté dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, je crois que cette phase laisse place à une autre maintenant. On passe peut-être à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose de nouveau. Alors, on va voir si c'est menaçant ou pas, mais c'est une nouvelle phase qui, je crois, rouvre complètement la discussion. C'est pas forcément
Pourquoi
rassurant. Alors, l'intelligence artificielle, c'est la deuxième phase de ce processus dont j'ai parlé et qui, en fait, va plus loin dans le processus qui a été créé. Je crois que si on essaye de donner du sens à la transformation du monde, on peut dire, en reprenant une typologie très, très classique et que le grand économiste français Jean Fourastier avait expliqué, au fond, l'histoire humaine, ça a été pendant des millénaires de travailler la terre, puis avec la société industrielle, de travailler la matière, on travaille des objets pour fabriquer des objets, et au fond, le nouvel âge qu'il annonce depuis longtemps, mais qui, je crois, s'est matérialisé, c'est de s'occuper de l'homme lui-même. Je vais m'occuper de vous. Bon, ça, c'est le nouvel enjeu, c'est la nouvelle chose, si on peut dire, que la société post-industrielle va travailler. Comment elle fait? Dans une société où il faut s'occuper des corps, il faut un médecin qui s'occupe d'un malade, il faut un enseignant qui s'occupe d'un élève, il faut des corps face à des corps. En fait, comme le disait très bien Fourastier, ça ne crée pas de croissance économique parce que le temps que je consacre à vous, je peux pas le consacrer à quelqu'un d'autre. Et comme le temps n'est pas extensible, on est obligé, au fond, de s'accoutumer à une forme de stagnation. Il faut travailler plus pour gagner plus, certainement, ce que disait Nicolas Sarkozy, vous aviez reçu ici il y a une quinzaine de jours. Mais comme le temps ne peut pas aller jusqu'à au-delà de 24 heures par jour, on voit que c'est limité. Que propose l'intelligence artificielle? C'est justement de dynamiter cette limite. On va vous faire traiter par une intelligence artificielle. Comment? Vous allez cesser d'être un corps, Guillaume, vous allez devenir une information. Je vais pouvoir m'occuper de vous parce que tout ce que je dois savoir de vous sera en ligne. Vous avez vu qu'hier, Apple a présenté ses nouveaux produits et dans ses nouveaux produits, dans l'Apple Watch, on va pouvoir prendre constamment votre pouls. On pourra même faire un électrocardiogramme, ce qui veut dire qu'un médecin à distance va savoir exactement votre état de santé. C'est donc un monde différent qui est en train, en réalité, aujourd'hui, de se dessiner.
Oui, mais alors, pensons à ces travailleurs qui sont parfois les travailleurs les moins qualifiés, ceux-là qui sont menacés hier, en tout cas, c'est ce que l'on nous répétait. On nous disait qu'ils étaient menacés par la délocalisation. Si on rentre dans une économie qui est une économie de service, puisque beaucoup de tâches seraient faites par les machines, Daniel Cohen, dans ce cas-là, ce que l'on peut se dire, c'est qu'un certain nombre de tâches de service, d'aide aux personnes âgées, relèvent de l'économie dite présentielle, ça veut dire que il faut être présent pour les faire, et donc elles ne sont pas délocalisables, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
Mais justement, le point de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir délocaliser ces tâches présentielles. À partir du moment...
Il y en a un certain nombre.
Beaucoup. À partir du moment où une montre va pouvoir prendre votre pouls, déjà, il n'y aura plus besoin de quelqu'un pour prendre votre pouls. À partir du moment où on pourra faire avec cette montre un électrocardiogramme, il n'y aura plus besoin de quelqu'un pour faire cet électrocardiogramme. Bientôt, on pourra imaginer aussi que ce processus aille plus loin, puisque vous aurez sur votre tablette des informations très précises sur ce que on comprend que vous devez prendre comme médicament pour... Et Amazon vous sera peut-être même branché, vous apportera directement ces médicaments. Mais pour rester optimiste, je crois qu'il y a deux voies en réalité possibles. Et on peut pas dire laquelle va se manifester. Une, c'est le processus dont on est en train de parler. Les entreprises qui produisent les biens les plus immatériels, les logiciels, les algorithmes, l'intelligence artificielle, captent toute la valeur. Et puis, les Steve Jobs, et bon, décédé, mais les Bill Gates, eux-mêmes très riches, auront une domesticité autour d'eux. Ils auront des médecins, ces gens-là. Ils auront des avocats, ils auront des coachs qui s'occuperont de leur corps, etc. Et on va avoir par cercle concentrique une mauvaise percolation de la richesse. C'est un peu ce qu'on a observé au cours des 50 dernières années. Maintenant, il y a un autre monde possible et il ne va pas venir tout seul. Il faut travailler à ça. C'est un monde dans lequel l'infirmière va trouver un emploi revalorisée parce qu'elle va disposer de ces technologies pour faire un diagnostic qui va lui permettre d'agir. Donc on peut imaginer, et en fait dans l'histoire c'est souvent comme ça que ça s'est passé, des complémentarités nouvelles entre une nouvelle classe moyenne et ces technologies. Donc le médecin deviendra peut-être un peu moins utile, l'infirmière plus utile, mais il faut œuvrer à ça pour que notre société au fond accomplisse cet idéal d'humanisme qu'on attendait dans cette société présentielle, pour reprendre votre formule, cette société de service qui était annoncé il y a déjà assez longtemps.
Mais alors ça, ce sont des emplois qualifiés. Pour être infirmière, il faut faire des études.
Bien sûr. Moi, c'est des emplois de classe moyenne.
Moi, je parle des pauvres, puisque nous évoquions les pauvres aujourd'hui. Emmanuel Macron va dévoiler son plan de lutte contre la pauvreté. Je parle des pauvres et ce joli mot d'employabilité, de leur employabilité au futur. Puisque aujourd'hui, ce que l'on voit par exemple aux États-Unis, qui est un pays qui a beaucoup investi en matière d'intelligence artificielle, il y a énormément d'emplois qui ont été créés, qui sont des emplois mal payés, précaires et occupés par des gens pauvres qui le restent de par ce fait, des emplois de livreurs, une multiplication par exemple des emplois de gardiens d'immeubles parce qu'il faut recevoir les colis qui sont livrés par Amazon. Il y a toute une série d'emplois de ce type qui sont créés. Est-ce que ça, on peut imaginer que ça contrebalance la destruction d'emplois que vous évoquez par ailleurs? Est-ce que ça signifie par exemple qu'on va avoir des sociétés en sablier, c'est-à-dire avec des gens très très riches en haut et puis des gens très pauvres occupant des emplois précaires? C'est ça notre avenir, Daniel Cohen?
Je pense que c'est une des branches de l'alternative, mais encore une fois, il y en a une deuxième. Quand on regarde les évolutions de l'emploi aux États-Unis, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'effectivement, la richesse va au 1%, au 0,1% les plus riches, mais les emplois sont tout en bas. C'est les emplois dont vous venez de parler. Il y en a encore beaucoup, parce qu'on a besoin de présence de personnes, etc. Ce qui a disparu aux États-Unis, enfin qui s'est véritablement affaissé, ce sont les emplois de la classe moyenne. Ce sont ces emplois qui servaient au fond d'intermédiaire entre le haut et le bas, parce que le numérique permet de s'en dispenser. Je n'ai pas besoin d'une personnelle intermédiaire pour donner une instruction. J'envoie un mail, tout le monde obéit, on n'en parle plus. Donc, un des enjeux, bien sûr, on peut relier tout ça ensemble, mais un des enjeux que scrutent les économistes, c'est si cette nouvelle révolution de l'intelligence artificielle va permettre de reconstituer une classe moyenne. Ça n'est pas la question que vous posez, mais c'est celle qu'on se pose parce que c'est là que la destruction a été la plus massive. Et moi, je pense que c'est possible. Mais encore une fois, il faut agir. Imaginez les hôpitaux publics. Imaginez, prenez la médecine ambulatoire. Il y a un grand besoin d'une intelligence artificielle qui connecte tout ça, qui permette de suivre les patients, en aidant les personnels hospitaliers à faire ce suivi sans renoncer à leurs tâches. Si on ne dote pas, dans cet exemple, l'assistance publique des moyens d'une réflexion qu'elle pourrait avoir par elle-même sur l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce que Apple nous a proposé hier, c'est-à-dire des applications tueuses qui se substituent à tout ça, qui disent, mais voilà, moi j'ai un partenariat avec Amazon, je vous soigne, je vous envoie les médicaments, on n'a plus besoin de rien. Mais ça, c'est évidemment pas souhaitable. On veut des infirmiers, on veut des personnes, on veut des personnels hospitaliers, on veut des médecins, on a besoin de cette humanité. Mais il faut leur donner les moyens de lutter contre ces... Enfin, pas lutter, de s'approprier ces technologies pour éviter, encore une fois, ces applications tueuses qui peuvent se substituer à eux si on n'y réfléchit pas à l'avance.
On veut des médecins, comme vous dites, on veut des infirmières, oui, on veut tout ça, mais on aime bien avoir des interlocuteurs, on en a de moins en moins. Aujourd'hui, un certain nombre de tâches, grâce à l'intelligence artificielle ou pas d'ailleurs, on les fait soi-même pour réserver un billet d'avion. Aujourd'hui, au supermarché, il y a de moins en moins de caissières. Il y a les caissières automatiques, enfin les caisses automatiques et maintenant les douchettes. Est-ce que vous êtes sûr que ce mouvement est réversible, quelles que soient nos envies, nos souhaits?
Réversible pour les exemples que vous donnez, bien sûr que non. Quand les interphones ont remplacé les concierges, bon, on a vu disparaître les concierges. Maintenant, encore une fois, le cœur des besoins, c'est des besoins qui portent sur l'humain. On a besoin d'être soigné, on a besoin d'être éduqué. Est-ce que on va mettre les enfants derrière un ordinateur qui va leur apprendre tout, plein de choses? On peut aussi imaginer que les enseignants, grâce à ces technologies, puissent démultiplier leur force de frappe, par exemple, en donnant des instructions qui, sur Internet, vont permettre d'accompagner les enfants quand ils sont chez eux ou quand ils sont dans des garderies. Et puis, les enseignants peuvent, grâce à ça, améliorer la qualité de ce qu'ils sont offerts. On a souvent dit, depuis le début de l'histoire, depuis l'empereur Dioclétien, les machines, c'est la menace contre l'emploi des personnes faibles, du bon peuple, comme disait cet empereur Dioclétien, qui ne voulait pas qu'on utilise des poulies pour soulever des colonnes parce qu'il avait peur que ça fasse du chômage. Il y a toujours eu cette peur. Et cette peur, tous ceux qui disent elle a toujours été fausse, se trompent. Et cette peur a créé des blessures profondes dans la société. Mais jusqu'à présent, on a trouvé des manières de s'en sortir par le haut. Le fait qu'on ait jusqu'à présent trouvé des manières de s'en sortir par le haut ne suffit pas à nous rassurer. Parce que ça peut prendre 50 ans, ça peut prendre 100 ans. On n'a pas le temps de se permettre de ça. Mais là, moi, je vois des enjeux très importants se dessiner qui, encore une fois, permettent à ceux qui s'occupent des humains de disposer de réserves d'intelligence qui ne soient pas substituées substituer par des applications tueuses. Regardez ce qu'Amazon a fait à tous les éditeurs. Il les a mis sous sa coupe parce que c'est lui qui distribue des livres. Qu'est-ce qui aurait empêché les éditeurs français de créer une plateforme de cette nature qui leur aurait permis de gérer eux-mêmes les flux? Même chose Booking. Booking détruit en quelque sorte, prend 15% de la valeur créée par les hôtels simplement parce qu'ils disposent d'une plateforme bien faite, etc. Qu'est-ce qui aurait empêché les Hilton, les Accor, etc. de disposer de ça? Je vois le même enjeu, mais beaucoup plus grave vis-à-vis des hôpitaux et de l'éducation. Qu'est-ce qui empêche les hôpitaux de s'approprier ça? Dans le rapport sur l'intelligence artificielle, j'aurais voulu voir un peu plus de choses qui permettent, encore une fois, d'aider nos enseignants, nos médecins à disposer de réserves d'intelligence associé à cette nouvelle révolution qui est en train de se produire.
J'ai un élément de réponse, Daniel Cohen, en ce qui concerne Apple et Amazon, puisque ce sont deux sociétés que vous avez citées. Cet été, ces deux entreprises ont franchi la barre des 1000 milliards de capitalisation à la bourse. C'est une barre symbolique, mais ça n'est pas qu'une barre symbolique, puisque ça signifie aussi qu'il y a une hyper concentration des profits, c'est-à-dire pour le dire vraiment schématiquement, pour réaliser des bénéfices records, il suffit d'avoir deux fois moins d'entreprises aujourd'hui et qu'on en avait besoin hier. Est-ce que ça signifie que l'avenir, il est à ces entreprises titanesques qui s'emparent de la totalité des activités, puisque Amazon aujourd'hui menace une quantité impressionnante d'emplois, et pas seulement les libraires, mais aussi les épiciers, les supermarchés. Bref, comment ça peut évoluer tout ça?
Déjà, c'est pas un avenir, on est dans le présent. Il y a une étude qui a comparé les trois plus grosses entreprises, donc il y a ces trois-là, et peut-être la troisième était Facebook, je ne sais plus, aux trois plus grosses entreprises des années 50 et 60. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la capitalisation boursière de ces trois premières entreprises est 9 fois exactement supérieure à celle des trois autres, mais ils embauchent 3 fois moins de gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'immatériel. Apple est un excellent exemple, c'est la première à avoir dépassé les 1000 milliards, elle fait faire, elle externalise la fabrication de ses iPhones par la célèbre firme Foxconn en Chine. Elle ne le fait pas elle-même. Elle est dans l'immatériel. Et donc, en effet, on voit l'immatériel, le numérique, absorber toute la valeur et laisser les fabricants des miettes de ce processus-là et laisser ensuite, en effet, le consommateur lui-même faire le dernier pas pour accéder à ces richesses. Donc oui, on est dans un monde, ce que les économistes appellent le rendement d'échelle croissant, où l'immatériel tend à absorber toute la richesse et y compris celle qui résulte de la prolétarisation de ceux qui travaillent pour eux. C'est exactement ce processus qu'il faut prendre à bras-le-corps, ce qui est fait et sans doute fait, mais je crois que tous les autres domaines dont on a parlé peuvent encore lutter à condition de démontrer qu'on peut produire une valeur supplémentaire en créant des synergies entre l'humain et les nouvelles technologies. Mais vous avez raison, la tendance actuelle va vers une accaparation tout en haut de la valeur pour les entreprises les plus immatérielles avec des cercles concentriques d'inégalités croissantes. C'est ce monde-là qu'on ne peut pas accepter. D'abord parce que ça n'est pas humain d'être dans un monde où tout est numérisé. Il faut être capable de refuser ça. On fête les 50 ans de mai 68. On avait refusé le métro boulot dodo, tous devant la télé. Il y a quelque chose de cette nature qui est en train de se jouer aussi. On a une nouvelle société numérique qui est aussi prenante en réalité que la société d'hier. Tout est numérique, on travaille derrière un ordi, on consomme derrière un ordi. Il faut une distance sociale, une critique sociale de ça, c'est ce dont on parle, des emplois requalifiés et non pas simplement numérisés. Et puis une critique, on disait artiste à l'époque, il y a une critique qui refuse simplement ce mode d'existence.
Mais alors ça justement, Daniel Cohen, est-ce que ces monopoles, parce qu'en économie on suit des monopoles depuis longtemps, il n'y a pas que des monopoles depuis que des entreprises comme Google ou Amazon existent, comment ils évoluent? Qu'est-ce qui peut les casser? Est-ce qu'ils sont cassables ou est-ce qu'aujourd'hui on a atteint des tailles d'entreprise et aussi des fonctions d'entreprise? Parce que Google, ça n'est pas n'importe quelle entreprise. C'est aujourd'hui l'axe central d'Internet, autrement dit du vecteur principal d'information de par le globe. Que dit l'économie sur le devenir possible de ces entreprises?
L'économiste, c'est simple, s'inquiète toujours quand il y a des monopoles trop puissants. C'est normal qu'il y ait une phase où on est monopole sur un produit qu'on a créé, surtout quand il y a cette rendement d'échelle qui fait que plus je suis gros, plus j'ai un marché captif, et plus en réalité je peux amortir les dépenses que j'ai engagées. Mais je crois que les autorités de la concurrence ont manqué de vigilance, parce qu'elles laissent ces entreprises-là absorber tous leurs concurrents. Facebook a absorbé Instagram et WhatsApp. Pourquoi les autorités de la concurrence ont laissé faire ça? On avait des concurrents, d'autres forme de communication réseau, et on laisse le plus gros absorber le plus petit. Donc là, il faut une vigilance absolue vis-à-vis de cette tendance à la concentration qui n'est plus dans l'ordre de l'économie mais qui est vraiment dans l'ordre du financier. J'ai les moyens de me payer tous mes concurrents, donc effectivement, le monopole pour le coup ne peut que croître.
Et cette création de monopole qui a créé des super riches, hein, parce que derrière ces valorisations d'entreprises, il y a des actionnaires, est-ce qu'elle explique la création de poches de pauvreté dont on parlait dans un premier temps, Daniel Cohen?
Ben oui, parce qu'à partir du moment où on est sorti de ce monde industriel dans lequel, encore une fois, les travailleurs les moins qualifiés étaient accrochés au wagon de la prospérité parce que c'était fait pour les intégrer. Là, aujourd'hui, ils sont sous-traitants de sous-traitants de sous-traitants, ils gardent des immeubles, etc. Bien sûr que c'est intimement lié parce que, en effet, notre société, tout simplement, n'est plus inclusive comme elle avait pu l'être avec la société industrielle. La société industrielle était dure, hiérarchique, obéissante, mais elle avait ce mérite. Il faut essayer aujourd'hui de retrouver cette forme d'inclusion dans un monde plus exigeant aussi sur le terrain des libertés.
Daniel Cohen, il faut dire que les temps ont changé. Chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète. C'est votre livre aux éditions Albin Michel.